Oui, vous voyez, c'est que vous avez le don de sagesse pour toute l'année jusqu'à la Pentecôte prochaine. Vous lisez Saint Jean de la Croix, livre plein d'amour, comme lecture au table de nuit, votre lecture de chevet. Votre livre de chevet, Saint Jean de la Croix, livre plein d'amour. Vous voyez comme c'est tout à fait adapté à ce que vous, à ce que nous avons à vivre, tout à fait adapté à ce que nous devons vivre, tout à fait adapté à votre vocation, notre vocation. Parce que, puisqu'il s'agissait donc de parler de vocation, c'est l'introduction pour parler de la vocation. L'introduction pour parler de la vocation. On ne peut pas parler de la vocation si on n'est pas rentré dans l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse, donc dans le mariage, la vocation, c'est cet appel. Ça vient du nom hébreu, nommé. En hébreu, on dit vocare en latin, ça veut dire nominé, on dirait, vous voyez en hébreu, nominé. Et nominé, comme je vous l'ai dit peut-être une fois, une messe, la première fois qu'on a marché, je crois, on avait dit la messe, dans ce terrain vague, là où il y avait des tables en pierre. Vous vous rappelez, on avait voulu aller hop. Alors, on a dit une messe, et puis c'était la question de la voix, et de la question de la présence, la voix, l'écoute, écoute. Il faut écouter. Si tu n'écoutes pas ton frère, tu n'écoutes pas l'Église, et puis Dieu qui t'écoute. Alors, bon là, je vous avais dit que Shema Israël, ça veut dire écoute Israël. Alors, écoute le nom, le Shem. C'est la même racine, et vocation, c'est la nomination aussi. C'est Dieu qui vous donne un nom nouveau, comme dit l'Apocalypse, une nomination, il vous nomme. Il vous écoute, il vous appelle, il vous nomme. Et le nom nouveau que chacun aura, vous savez, comme dit l'Apocalypse, une petite pierre blanche, avec inscrit dessus un nom nouveau. Et la première étape de l'appel, c'est d'entendre la voix de l'époux de Jésus qui nous appelle et qui veut nous donner son nom. Il veut nous donner son nom. Donc, engagez le mariage avec lui. Parce que quand vous vous mariez, la femme, l'épouse, prend le nom du mari et lui donne son nom. Une tradition qui vient justement du fait que dans la vocation, on nomme, quand on appelle quelqu'un et qu'on la reçoit, on la nomme, elle prend mon nom, c'est-à-dire elle va vivre, elle va écouter ce que moi aussi j'écoute. Vous voyez comment le nom, la nomination, l'écoute, c'est au même, la même chose. Donc c'est une question d'écoute, une question d'oreille. C'est pour ça qu'il faut, comme disait Saint-Père, deux efforts pour pouvoir labourer et creuser dans la fondation de notre sol le lieu où on va voir clairement notre vocation. Les deux labours, les deux raies de la charrue, c'est la doctrine. On va prendre le « là » de l'Église, hein, un petit diapason, tac, on se démarre tous sur la même note, et la doctrine de l'Église, Saint Thomas d'Aquin, on prend Saint Thomas, on va prendre autre chose, même si c'est agréable, même si c'est rigolo, même si c'est enthousiasmant. Non, non, pas le prendre, on prend Saint Thomas. La vérité. Oh, c'est beau ce qu'il dit. Qu'est-ce que c'est beau ce qu'il dit. Qu'est-ce que c'est. Oh. Eh bon, c'est beau. Ou si c'est pas tout à fait juste. On prend Saint Thomas. Dans l'église, on prend Saint Thomas. Ben oui.
le labé. On écoute la voix de l'Église et on se forme à la vérité. Très bien, premier aspect. Deuxième aspect. Le deuxième aspect, c'est l'horizon, c'est l'écoute de Dieu. Alors à ce moment-là, si on vit des deux, vous voyez, l'intelligence et le cœur, vous voyez, l'intelligence, la doctrine, la révélation de l'Église, on lit la parole de Dieu. Thomas. Vous pouvez lire dans saint Thomas, par exemple, le commentaire que saint Thomas d'Aquin fait de l'évangile de saint Jean. Ouais. Un tome pour trois chapitres. Saint Thomas aussi a fait ce qu'on appelle la chaîne d'or, un livre fabuleux, où il reprend les quatre évangiles. Et chaque verset, dans chaque verset, vous m'entendez bien, il donne tous les commentaires de tous les pères de l'Église, chaque verset de l'Évangile. Sept tomes seulement. La chaîne d'or de saint Thomas d'Aquin, très difficile à trouver. Les francs-maçons font toutes les librairies, les prennent et les brûlent. Et c'est jamais édité. Donc si vous en trouvez un, c'est des dominicains ou ça, précipitez-vous dessus. Regardez dans les bibliothèques de Carmel, s'il n'y est pas, la chaîne d'or, dans les bibliothèques de Bénédictin, dans les bibliothèques de Dominicain, hein. Fouillez, est-ce que je pourrais avoir accès à la bibliothèque, supplier d'avoir la chaîne d'or, ça ne sera pas. Un tome, je vous rendrai, je vous en supplie. Très facile à lire. Très facile à lire, la chaîne d'or de saint Thomas, très facile à lire. Un enfant de 12 ans pourrait lire. La chaîne d'or, c'est fabuleux. Vous avez toute l'interprétation de la tradition de l'Église. Saint Thomas connaissait tout. Un jour, j'avais envoyé à l'IPST, à André Clément, un fac-similé d'une petite page griffonnée par Saint Thomas d'Aquin. Il écrivait de manière tellement dingue qu'il n'y avait que... Il ne pouvait peut-être même pas se relire. Et c'était son disciple qui était le seul qui pouvait le relire. Et il griffonnait un truc comme ça. En 30 secondes, moi, il me faut à peu près une heure et demie pour le lire. Quand il lit un petit truc qui fait sur lui, je sais pas, 12 lignes, ça va faire 7 pages. Et il écrivait à une vitesse extraordinaire, donc il avait 7 pages en 30 secondes. C'est un génie, saint Thomas d'Aquin. Le plus grand génie que la Terre ait jamais porté, ce que dit l'Église, c'est le docteur principal, et de très loin, de toute l'Église. Hein? Alors, il vous a fait le commentaire de l'évangile de saint Jean. Bon. Allez, hop, on va voir. Et il y a un pape, je ne sais plus lequel, qui a dit, il n'y a pas une question de la sainte de saint Thomas où il n'y a pas eu une mission du Saint-Esprit. Ouais. Le docteur Angélique, parce que justement, l'ange, c'est l'intelligence très pure et instantanée. Donc c'est lui, justement, ce que je viens de t'expliquer. Évidemment, c'est pas commode à lire la tombe de saint Thomas quand elle n'est pas commentée par quelqu'un qui connaît bien. Il y a beaucoup de commentaires complètement idiots de la tombe de saint Thomas. Alors, mais on lit, c'est pour ça que je vous propose de lire surtout la chaîne d'or, les commentaires de l'Évangile, les commentaires de l'Épître aux Corinthiens, c'est pour ça par saint Thomas. Mais vous pouvez lire aussi certains passages, par exemple le traité des passions. Les onze passions de l'âme, vous voyez, c'est lui qui explique que ça c'est un petit traité qui est facile à lire. Ou les dons du Saint-Esprit, vous pouvez lire les dons du Saint-Esprit, c'est facile à lire de saint Thomas. Regardez le don de sagesse dans saint Thomas, c'est relativement facile. Il y a des passages quand même faciles. La vie de Jésus dans la somme de saint Thomas est facile à lire. La vie de Jésus, très facile à lire. Donc il y a des passages quand même dans la somme de saint Thomas. Il a écrit la somme pour les débutants. Il a écrit la somme de saint Thomas. Il a écrit cette somme et il devait être quand même miséricordieux. et je vais écrire la somme pour les débutants en catéchèse. Et moi, ça fait 7 ans que j'ai commencé, j'ai pas fini. J'ai presque tout fait quand même. J'en ai fait plusieurs fois. Aussi. Non, avant, j'avais jamais. Non, avant, j'avais jamais lu saint Thomas parce qu'on me disait c'est un con, c'est un imbécile, c'est un. Complètement idiot. Donc j'avais jamais lu saint Thomas et j'ai paumé 10 ans ou 12 ans à faire de la théologie. Avec des imbéciles comme Karl Rahner, Kuhn, compagnie. Ils sont là pour faire perdre du temps. Et Satan, c'est sa méthode, c'est faire perdre du temps. C'est la méthode de Satan. Allez tout de suite à saint Thomas, vous ne perdez pas de temps. Vous ne serez pas comme moi, vous ne paumerez pas 12 ans. Donc ça, mes 12 ans auront servi à quelque chose. Pardon ? Mais tu bulgares à 45, j'ai gagné au seul, au centuple après. J'ai eu des commentaires de métaphysique, d'éthique. Mais je parle de la somme là-haut, hein, pour les débutants. La somme, c'est très miséricordieuse. Vous pouvez lire quand même le truc. C'est pas impossible de lire la Trinité. Je reconnais que c'est pas commode. Le traité de la Trinité est pas commode, mais c'est pas mauvais de le lire. Vous pouvez un traité qui est très difficile à lire, mais capital, et qu'il faut avoir fait une fois dans sa vie, c'est de lire par exemple le traité du Verbe incarné dans la Somme de saint Thomas. C'est pas du tout commode. Et si vous n'arrivez pas à le lire, vous pouvez demander la série de cassettes à Saint-Jodard où Marido lit la somme du traité du Verbe incarné en expliquant. Vous achetez la série de cassettes. D'ailleurs, le groupe Clergeois pourrait faire quelque chose comme ça, d'avoir une espèce de série de cassettes qui circulerait comme ça. Après tout, pourquoi pas. En tout cas, ça doit être saint Thomas. Saint-Père l'a dit, c'est la vérité. En tout cas, livre de chevet, saint Jean de la Croix, vive flamme d'amour. Ça, c'est livre de chevet. Le travail, c'est saint Thomas, parce que ça, c'est un travail. C'est pas pour dire, tiens, je vais prendre un pied avec saint Thomas. Ben non, ça, je ne prendrai pas votre pied avec saint Thomas. Vous allez creuser. J'y comprends rien. Vous voyez, à partir du moment où vous vivrez de l'oraison, vous savez le former un peu, entre Saint-Jean de la Croix et Saint-Thomas, vous vivrez de l'oraison, à ce moment-là, vous allez pénétrer dans ce qu'on appelle l'écoute, vous allez écouter. Avec une oreille d'une finesse extraordinaire, votre oreille intérieure va s'affiner, tout écoute. Alors il se trouve qu'en ce moment, Dieu vous écoute en ce moment. Ouais. Est-ce que vous faites de l'oraison ? Et à l'intérieur, à partir de ce moment-là, si vous avez une âme d'oraison, vous pouvez avoir votre vocation. Vous verrez que votre vocation va s'éclairer assez facilement. Parce que lorsque vous serez, par exemple, au bout de 2 ou 3 heures d'oraison, par exemple, l'année prochaine, vous faites 2 ou 3 heures d'oraison de suite. Moi, je fais 7 heures d'oraison de suite sans problème. Même c'est devenu un souffle. C'est vital. C'est vital. Non, parce que je m'occupe pendant ce temps-là, mais si je suis tout seul et que je ne fais pas oraison, je crève. Je crève littéralement. Amener la civière. Oui, ça c'est sûr. Donc vous faites 2 ou 3 heures d'oraison, comme ça, on me fait devant Saint-Sacrement exposé pendant 2 ou 3 heures, vous abandonnant complètement, ouvrant très largement les oreilles de votre âme à la voix qui sort, la présence, la voix c'est la présence,
sa présence lumineuse qui vient brûler votre âme. Vous restez comme ça 2 ou 3 heures, et après vous vous dites, à la fin de l'oraison, vous prenez un petit bout de papier, une colonne, qui est très au milieu, vous mettez à gauche quelles sont les 2 possibilités, le mariage, la vie consacrée. Donc vous hésitez entre 2 choses, ou 3. Ah mais si vous n'hésitez pas, ce n'est pas trop mal. Si, le mariage, non, le mariage, c'est une vocation, tu es appelé au mariage. Ah ben, non. Si, tu peux le savoir d'avant. Tu peux pas savoir qui, tu peux savoir que tu es, que la, Dieu te nomme à travers le corps et le cœur d'un homme. Alors donc, à la fin d'une oraison où vous aurez vraiment vécu l'islam d'amour, une écoute continuelle, 2 ou 3 heures, prenez votre papier, faites une colonne, 2 colonnes, et puis vous dites au sommet, enfin, mettez au sommet, un petit exercice spirituel de discernement, mettez au sommet, voilà, par exemple j'hésite entre être pèlerin et ermite. 2 possibilités, ou être pèlerin ou être ermite. Hein? Je suppose que ce soit ton alternative. Pèlerin ou ermite. Alors, tu mets pèlerin à côté, ermite de l'autre, c'est pas si simple. C'est comme ça. Et tu développes en dessous toutes les raisons qui te pousseraient à plutôt être pèlerin ou à plutôt être ermite. Toutes les raisons. Plutôt ermite parce que être ermite, l'église le dit que c'est mieux que d'être pèlerin, etc. Et puis parce qu'on m'a dit que, etc. Et puis parce que j'ai rencontré telle et telle personne qui j'ai trouvé ça formidable, etc. Ah, mais les raisons pour. Ensuite, les raisons contre, mais qui est en dessous, vous développez toutes les raisons contre, vous connaissez ça rapidement. Pour l'un, puis après pour l'autre. Et puis après, vous regardez les deux, vous comparez le poids et la valeur des arguments pour et contre, et vous verrez immédiatement qu'il y a une colonne débile et une colonne forte. Et vous l'aurez fait sous l'influence de l'écoute. Votre âme était, à bout de 2 heures d'oraison, sous l'influence seule du Saint-Esprit. Et donc, quand vous avez fait donc votre argumentaire, si vous voulez, du moins lorsque vous faites votre argumentaire, vous vous remettez bien sûr en oraison, encore pendant 2 ou 3 heures le lendemain, et vous reprenez votre colonne et vous regardez en effet le lendemain en disant mais c'est évident que c'est ça. Vous pouvez le faire chez vous. Oui, vous passez dans la tête. Au bout de 33 jours d'exercice, vous pouvez le faire tout de suite si vous faites votre année d'oraison, parce que tout le monde va prendre 33 jours.
Même dans l'espace.
Et donc, si vous faites votre demi-heure d'oraison tous les jours, et que vous êtes capable, au bout d'une demi-heure d'oraison, en ayant 5 ans de la croix, toujours, sur votre chose, l'immaculée toujours dans votre main, vous voyez, tout ça, l'union à Dieu, si au bout d'un an, vous êtes comme ça, vous vivez de l'esprit de sagesse, vous vivez de l'esprit de sagesse si vous faites oraison tous les jours. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous serez... comme une espèce de braise ardente à chaque fois que vous avez raison. Quelquefois, ce sera au contraire une brûlure intense, style cautérisation des yeux de Saint François d'Assise. Très désagréable, purification de mirative. Brûlé de colère, vous allez subir une demi-heure de haine par vous. Se transformer en volcan venimeux pendant une demi-heure. C'est le cautère. Et il est délectable, parce que vous voyez que ça sort. Tout ça était en vous, ça sort. C'est vraiment délectable, savoir que ça sort. C'est délicieux, savoir que Jésus nous purifie de manière si radicale. Donc, si une demi-heure tous les jours, j'arrive à un état, au bout d'un an,
D'abord, vous n'êtes plus la même personne, je tiens à vous prophétiser solennellement. Vous n'êtes plus la même. Deuxièmement, vous serez capable de faire une élection, c'est-à-dire de faire une petite colonne, comme je viens de vous le dire, et de faire ce qu'on demande de faire à ceux qui ont fait les 33 jours d'exercice dans la suite, dans la suite, dans la suite, sans aucune discontinuité. Parce qu'il faut se former, il faut faire oraison. C'est les deux conditions. Pas s'engager trop vite. Il faut se mettre donc dans des conditions. Vous voyez, votre vocation, c'est intermédiaire, consiste à vous mettre dans des conditions, un milieu, des conditions de vie. Vous voyez, choisir tel ou tel emploi, par exemple. Le critère, ce sera de savoir telle ou telle famille, est-ce que j'ai eu avec une copine, est-ce que j'ai eu resté à la maison en famille, est-ce que je fais. Vous voyez, est-ce que. Est-ce que je vais entrer en maisonnée à l'Emmanuel? Est-ce que je vais entrer à JF? Je vais choisir donc un contexte qui me permettra précisément et la formation et le réseau. Voilà votre vocation intermédiaire immédiate. C'est ce que Saint-Père a dit, il vous a appelé d'abord à vous lever à lutter contre les gouvernements. Et deuxièmement, il vous a appelé, ça c'est négatif, donc je laisse tomber. Et positivement, il vous a appelé à ceci. Il vous a appelé, bon, à sortir d'autodestruction, s'il vous plaît. Le premier, l'autodestruction. Donc, vous arrêtez de vivre comme vous avez fait jusqu'à maintenant, à ne pas faire oraison, et à ne pas vous former à Saint-Thomas. Vous arrêtez. Ça c'est l'autodestruction. Parce que si vous n'êtes pas formé par Saint-Thomas et l'oraison, ben forcément vous tombez dans l'autodestruction et l'influence de cette idéologie. Les apprido. Et alors, donc vous arrêtez ça, vous arrêtez ça. Mais ça ne sert à rien d'arrêter, il faut quand même, donc la vérité, il vous a appelé à ça, c'est le Christ qui vous a appelé à ça, et la contemplation, le Verbe dans le sein du Père. Alors je crois que c'est pas mal de résumer comme ça. Donc il ne faut pas s'engager trop vite, on s'engage une fois qu'on est bien formé, une fois qu'on est bien assis, qu'on est bien dans une régularité d'oraison, dit contemplative, on ne peut pas s'engager avant d'être contemplatif. Pour quelqu'un qui est contemplatif, il n'y a aucun danger. Aucun. Alors la formation à la vérité a pour but de rétablir dans sa santé naturelle notre intelligence qui a été corrompue par les idéologies modernes. Tous les a priori faux, radicalement faux, de l'image de la bête. Et toutes les influences donc qui nous encerclent par toutes sortes de choses suffisantes et qui fait qu'on n'est pas, je veux dire, dans notre nature normale. On est complètement aliéné. Alors, la formation est pour ça, pour rétablir dans notre intelligence quelque chose de sain, une bonne santé. La vérité purifie. Au plan naturel. Et la contemplation a pour but de nous inonder de la lumière du Verbe de Dieu, surnaturellement, de manière sublime, naturelle, définitive, cotérisante. C'est l'oraison. Vous voyez, vous avez les deux aspects. Tant que vous n'êtes pas dans un état de vie où ces deux choses-là ne se produisent pas, où ces deux choses-là ne se cultivent pas, dès que vous n'êtes pas à votre place, vous devez changer dès possible. Mettez-vous dans les conditions où vous allez pouvoir vous former, vous dégager de cette idéologie, comprendre les idéologies de l'intérieur, pouvoir écouter une cassette de temps en temps là-dessus, pouvoir vous exorciser là-dessus. Et deuxièmement,
une vie dans laquelle vous pouvez faire oraison tous les jours. Alors vous prenez un contexte de vie. Choisissez une communauté de vie. Vous allez avec les frères de Saint-Gervais, par exemple, à Paris. Très très chouette. Hein? Renan en fait partie, avec Marie-Caroline, Marie-Noël, Anita, hein? Super. Donc, vous allez à Rennes, je ne sais pas où, dans un groupe de communauté fraternelle, pardon. Oui, vous vivez avec... Il y a un contexte de vie qui fait qu'on est porté, entraîné, par oraison. On sait qu'on doit avoir une règle. On prend un père spirituel. On prend un père spirituel pour qu'il vérifie qu'on est bien fidèle à l'oraison. Et puis pour qu'il m'explique des trucs que j'ai pas compris. On prend un abonnement à Diocone Service pour pouvoir écouter tous les enseignements du père Marido qui sont dans la ligne de saint Thomas d'Aquin. Parce qu'il y a un deuxième génie dans l'église, c'est Marido. Hein. Absolument exact. Je le dis très sérieusement, ça. C'est lui qui m'a formé. Normal. Et ça va très très vite avec lui. C'est ça qui est génial. Quand un type est génial, les choses les plus difficiles, il vous les transmet, vous les comprenez. Vous avez écouté une conférence de, je sais pas, et vous comprenez, vous avez l'impression, quand il parle, que vous êtes devenu intelligent. Très agréable. Pas du tout désagréable, la formation. C'est très, très agréable. Vous voyez ? Alors donc, vous mettez dans des conditions de vie qui vous permettent ça, de rester fidèle toute l'année à ça. À être distinct. Donc vous connaissez votre vocation intermédiaire, il s'appelait la sainteté. Aujourd'hui on n'a plus le choix. On rentre dans le temps de l'Antéchrist et il n'y aura absolument pas aucune zone intermédiaire. Non, on est... il n'y aura aucune zone intermédiaire entre les saints et les athées. Il n'y aura aucune zone intermédiaire. Donc on est appelé à la sainteté. C'est la vocation intermédiaire. Donc on est appelé à la sainteté. C'est ce que j'appelle la vocation intermédiaire. La vocation intermédiaire, c'est que ce n'est pas encore l'état de vie qui est précisé. Mais on est tous appelés à ce que Jésus donne son nom, c'est-à-dire que toute la personne, dans sa puissance active d'intervention efficace, hein, le nom, vous vous rappelez ? Est-ce que vous l'aviez noté par cœur ça ? Le nom. Traduction de Shem hébreu, au nom du Père et au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit quand vous dites le signe de croix, le nom du Christ, quand Dieu vous, quand Jésus vous donne son nom, c'est-à-dire quand il vous donne sa, quand il vous appelle, donc quand il vous donne votre vocation, il vous donne son nom, il vous nomme, il vous donne votre nom. Le nom, c'est quoi? C'est la personne dans son intervention, dans sa présence, pardon, la personne dans sa présence active, actuelle, d'intervention efficace. Vous voyez ? Dans l'oraison, vous êtes dans le nom du Christ. C'est-à-dire dans la personne, Jésus en personne, dans sa présence active, actuelle, où il intervient efficacement en vous. Vous êtes dans le nom du Christ. Et ça, c'est ce qu'on appelle la vocation. Il vous nomme, il vous appelle, vous l'écoutez, vous écoutez. Le fait que Jésus descende en personne, en présence réelle et mystique, et agit efficacement, actuellement, en ce moment, efficacement, complètement. Et vous saisissez, et vous êtes un avec lui. Ça, c'est ce qu'on appelle la vocation, c'est ça. On est appelé à la sainteté. Donc tout le monde doit savoir qu'il est appelé à dire une demi-heure d'oraison minimum tous les jours. Ça structure toutes les vocations, sans exception. Tant que vous n'avez pas fait votre demi-heure d'oraison tous les jours, vous ne pouvez pas avoir une incarnation de cette vocation. Donc l'état de vie, Ceci étant, certains d'entre vous qui font raison peuvent très bien savoir, dès maintenant, quelle est leur vocation. Bien sûr. Parce qu'il suffit que, en ce moment, si vous sentez, après avoir lu Saint-Jean de la Croix, que vous êtes... Vous savez, quand on lit Saint-Jean de la Croix, on a l'impression que ça se passe en nous. Non, vous, enfin, sauf, bien sûr, quand on tombe dans l'extase. Et alors, tout de suite après d'avoir lu Saint-Jean de la Croix, et vivant ce que Saint-Jean de la Croix exprime, vous dites, seulement en pensée, maintenant, dans le cas, seulement en pensée, pardon Seigneur, j'avais complètement oublié que Jésus était présent, enfin d'accord. Seulement penser la sainteté que Jésus me demande. Je vais dire de la sainteté de Jésus dans le... Vous voyez, instinctivement, vous sentez que c'est dans le mariage. Quand vous êtes dans cet état-là, pas quand vous êtes en train de dire que j'ai un feu, je sais pas, tu fais ma vocation, je vais vous tirer, je vais faire de la voir, etc. Non, vous êtes dans un état, je veux dire, d'oraison. Vous êtes dans un état d'oraison. Vous torturez le cerveau en disant, voilà, ah, quelle est ma vocation? Ça, c'est sûrement pas comme ça que vous aurez votre vocation. Mais si vous faites oraison, vous vivez, vous avez Saint-Jean de la Croix à côté, vous êtes là, l'Immaculé, vous avez prié 8 heures dans la nuit précédente, puisque vous êtes endormi dans les bras de l'Immaculé. Oui, c'est encore une chose qu'il faut que je précise. Troisième règle, il faut prier au moins 8 heures par jour avec Marie. Minimum. 8 heures par jour. Je parle du minimum. Saint Ignace de Loyola, donc le discernement d'une vocation est aussi espagnol, je signale. Donc c'est Saint Ignace de Loyola qui je vous explique en ce moment en essayant de vous le vulgariser. Vous voyez, comme l'Espagne quand même a quelque chose de très fort. L'année prochaine, on ira à voir Saint Ignace de Loyola, Saint Dominique et Garabanda. Ou alors, on peut faire une retraite. Je prêcherai une retraite dans mon ermitage, vous amènerez votre tente. Les uns iront coucher dans les grottes, les autres les tentes. Oui. Le soir, vous dites le chapelet, vous dites ma maman immaculée, oh ma maman bien-aimée, ma maman immaculée, ma maman bien-aimée. Et vous êtes plongé comme ça, et vous êtes enveloppé dans les mains de l'Immaculée. Dieu ne dort pas, vous le savez bien, puisqu'il n'y a pas de corps. Les anges ne dorment pas, ce sont des purs esprits. Mais nous dormons parce que nous avons un corps. Ce corps qui dort. Mais nous avons aussi une partie spirituelle en nous. Nous sommes corps, âme et esprit. Et l'esprit, lui, ne sait pas ce que c'est que le sommeil. Il ignore totalement ce que c'est que le sommeil, l'esprit en nous. Et donc, si votre esprit se fixe, parce que, je sais pas, votre copain Jean-Sébastien, vécu, je sais pas, des choses extraordinaires avec lui au point de vue, je sais pas, Asmodée, n'est-ce pas ? Alors. Vous avez une expérience asmodéenne avec Jean-Sébastien. Alors, Asmodée, c'est un des trois princes de l'enfer, celui qui est chargé de nous plonger littéralement dans l'esclavage de la chair. Donc vous avez une expérience asmodéenne avec
avec Jean-Sébastien. Et là, votre esprit, là, pense à ça, et hop.
Oh là là. Oh, 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 oh.
Je m'endors là-dessus. Et bon, j'ai plongé mon esprit dans les grilles d'Asmodée, qui fait tout le travail qu'il veut pendant 8 heures. Il fait ce qu'il veut. Et même si vous plongez dans les bras de l'Immaculée, elle fait tout ce qu'elle peut faire, elle le fait pendant 8 heures. Et elle vous met en oraison pendant 8 heures, c'est de l'oraison, c'est de la prière. Lorsque votre esprit se fixe dans l'Immaculée, l'esprit ne dort pas, l'esprit ne dort pas. L'esprit doit prier jusqu'au réveil, 8 heures dans les bras de l'Immaculée, il suffit de s'endormir et pendant qu'on a fixé dans l'Immaculée. Expérience Anita cette nuit. Anita cette nuit s'est endormie, tout d'un coup elle s'est réveillée. Au bout d'une heure, je sais pas combien.
Au milieu de la nuit.
Attention, réveillez-vous, oui, il faut dire le chapelet. Il fallait s'endormir en disant le chapelet. Oui, c'est bien. Oui. Ce qui montre bien en effet, vous voyez que quand l'esprit se fixe, le dernier instant avant de se plonger dans le sommeil, va déterminer tout le travail de la grâce pendant 8 heures. C'est pour ça que c'est si important. Donc si vous êtes plongé dans les bras de l'Immaculée, bon, bien sûr, dans toutes les nuits précédentes, il est évident que votre journée ne sera pas pareille. Parce qu'il y a plein d'histoires qu'on a dans la journée, il ne faut pas essayer de chercher d'où ça vient. Souvent ça vient du fait mais j'ai rien fait de mal pendant et la nuit. Et là j'étais endormi avec en pensant à des expériences asmodéennes que tu avais eues avec je sais pas truc il y a 8 ans hein, bon il y a 5 ans hein, formidable. Donc, vous voyez. C'est pour ça, on se réveille avec Jésus. C'est bon. C'est la première loi du catéchisme, la première chose qu'on apprend au catéchisme, tu dois prier le soir et le matin. C'est la loi numéro 1. C'est pour ça que c'est vraiment c'est le péché le plus grave, je crois, c'est de ne pas prier le soir en s'endormant. Je crois qu'on peut difficilement faire un péché plus grave que celui-là. Parce qu'on bousille, on bazarde, mais vite sur nos raisons. Alors que c'est... Hein? C'est pas vrai? Alors pour moi, la vocation apparaît, vous voyez, la vocation va apparaître. Vous faites votre oraison, un dimanche, vous contactez le Seigneur, vous faites vos oraisons de 3 heures. Avec vive flamme d'amour, vous avez écouté les super cassettes de philosophie, de métaphysique de Bernard Hinault. Mais je vous préviens qu'à partir du moment où vous aurez commencé, vous ne pourrez plus vous en décoller. Hein. Vous avez mordu à l'hameçon, c'est fini. Hein. Hein. Ce brave Pascal, là, quand il a commencé, maintenant il fait à peu près 10 cassettes par jour. Hein. Ah, dès que vous avez commencé, c'est fini. Vous avez tellement vu que c'est vrai, que c'est ça, que vous laissez tomber tout, hein, la télévision à la poubelle, le téléphone, vous décrochez, et puis hop, ah ça alors là, c'est évident. Hein? On écoute quelquefois les cassettes de Tigris aussi. Tigris font des cassettes intéressantes. Johannes, c'était la cassette de Johannes. C'est à la fois de la prière, c'est agréable, c'est contemplatif, c'est méditatif. C'est porteur. Vous supprimez Jimi Hendrix, vous foutez tout ça à la poubelle. Vous mettez tout le temps Johannes. Et après, vous êtes dans un état à la fin de l'oraison tel que vous éprouvez réellement que l'Esprit Saint est venu habiter vraiment en vous. Je sais pas, vous voyez que
à ce moment-là, vous faites votre... Vous faites ou bien sur papier, ou bien simplement intuitivement, en disant, ben voyons. Mais oui, Jésus m'appelle à la sainteté, je suis vraiment fait pour la sainteté, je vais me sanctifier, je vais me sanctifier. Et la sanctification pour moi, ben, elle ne peut se faire que dans le sacerdoce. C'est l'instinct, vous suivrez l'instinct. Ça vous paraîtra à ce moment-là évident que c'est dans le sacerdoce. Instinctivement, vous serez tenté. Et quand vous aurez écouté les enseignements par rapport au mariage, par exemple, vous aurez vu à quel point c'est fou. Et c'est dans le mariage, la sainteté, c'est... Je ne trouverai la sainteté que dans le mariage, voyez, en pensant justement à tout ce que je vous ai raconté, à quel point la sanctification dans le mariage est quelque chose de facile, à condition d'avoir trouvé celui qui est capable de vivre avec moi cette effusion dans l'amour, cette effusion-là dans l'amour. Et si celui qui est en face de moi en ce moment, dont je suis amoureux, celle, pardon, dont je suis amoureuse, bon, ben, de toute évidence, ne vivra jamais le mariage de cette manière-là, c'est un signe de que c'était pour le mariage, mais pas avec cette personne. Très simple. Élémentaire, mon cher Watson. Hein. Mais faut pas dire trop vite que le conjoint en question, dont je suis amoureuse, n'en est pas capable. Faut pas dire trop vite. Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes incapable? Il suffit simplement de le séduire. Suffisamment pour lui dire, bah tiens, il faut quand même que... Et si on se fiançait, on se fiance, mais maintenant qu'on est fiancé, si on se préparait au mariage, ah oui. Mais moi, il faut un mariage quand même chrétien, je suis chrétien, ah bon. Ben, donc, on ne peut pas se marier à l'église si on ne fait pas une préparation, ah bon. Ah ben... Je trouverais un père qui nous explique quand même un peu, que ce soit pas trop chiant. Ah bon. T'as pas envie? Bon, pas vraiment. Pas. En tout cas. On va pas dire trop vite. On parle à personne dans l'état où elle est. Fossilisé par les idéologies modernes. Et évidemment, on prend la personne telle qu'elle est dans son fond. Vous voyez, c'est très simple. Vous êtes à la fin d'une oraison, une bonne oraison, et vous vous dites, oui, c'est vrai. Je sais, je vois que ma vocation c'est la sainteté, c'est-à-dire de vivre de ce mariage spirituel entre Jésus et moi. Parce que dans le mariage, vous ne pouvez pas vivre la relation dans le mariage, je vous signale, sans passer par la sponsalité avec le Christ. C'est-à-dire, tu dois épouser le Christ dans ta chair, vivre du mariage spirituel. Et quand tu es dans le mariage spirituel, tu t'abandonnes à ton mari. C'est pour ça que ton mari peut dire en te saisissant, ceci est mon corps, puisque tu as fait une seule chair, mystiquement avec le Christ. Il dira, ceci est mon corps, en pensant que c'est le corps du Christ. Et ce sera en plus sacramentel. C'est un sacrement. Donc il y aura une vraie transubstantiation dans la rencontre. Donc, si tu n'es pas contemplatif et que tu ne vis pas la sensualité avec le Christ d'abord, tu passes à côté de ta vocation de mariage.
Donc ne dites pas, je ne veux pas faire une heure d'horizon par jour, parce que sinon je suis sûr que ça va me mener au Carmel. C'est de la connerie. Eh oui, à la fin de l'oraison, à la fin d'une année d'oraison, on se rend compte qu'on est fait pour le mariage. Alors qu'on pensait en rentrant, en commençant, qu'on était plutôt fait pour le sacerdoce. Ça, c'est sûr. Donc, faites vous sanctifier comme ça, en y mettant toutes vos billes.
Et en étant.
En étant d'une férocité particulièrement grande. Pour garder tous les jours minimum de gré. Ça, il faut que vous soyez féroce. Alors là, ça peut être intransigeant. Et si à l'intérieur, j'allais dire, bon, ben, ça fait rien. Cette demi-heure a été brûlée pour Dieu, grillée complètement pour Dieu. Ben, il ne s'est rien passé de temps. On s'en fout, ça a été brûlé pour Dieu. J'ai vécu rien du tout. Ah oui, purification de la mémoire, excellent. Ah, si vous pouvez rajouter une messe par jour, ou alors si vous allez à la messe et vous terminez la messe par une demi-heure d'oraison, excellent. Démerdez-vous.
Il m'en résiste.
Tu feras des coupures sur ta... Tu feras des coupures sur ta cassette. D'accord ? Oui. Est-ce que c'est bien d'aller à la messe tous les jours ? J'entends pas. La plus belle prière, c'est d'aller à la messe tous les jours, à condition de faire oraison après. Sinon, non. La messe n'est pas un but en soi. La messe n'est pas un but en soi. Jésus est envoyé pour que nous laissions littéralement brûler d'amour dans l'oraison après la messe, dans l'action de grâce. C'est la finalité de la messe. Donc si je vais à la messe et que je ne fais pas oraison après, c'est comme si j'avais craché dans un pot. Pas tout à fait quand même. De mon côté, oui. Comme si j'avais craché dans un pot. Mais Jésus, quand même, ex opere operator, en fait que c'est un sacrement, a quand même fait quelque chose de sublime, de très grand, et il a évidemment décuplé toutes mes forces tant que je m'en rends compte, c'est la seule communion. Mais c'est par mille qu'il faut que ce soit fait. Mille, les mille ans de l'Apocalypse, c'est l'oraison. Et ça, c'est ma part à moi. Mille, c'est la part de la créature, les mille ans. Est-ce que ça va? Donc à la fin de l'oraison, dans un an, quand vous aurez pris l'habitude justement de le vivre à la manière de Saint-Jean de la Croix, c'est pour ça que vous gardez le livre des chevets de Saint-Jean de la Croix, mais comme il faut répéter, c'est très très bon. À ce moment-là, vous vivrez cette oraison, vous allez faire par exemple 2 heures d'oraison après l'Eucharistie, après avoir vécu dans les bras de l'Immaculée toute la nuit précédente. Vous êtes dans un état tel que vous n'êtes plus du tout sous la motion des 7 idéologies modernes, ni sous vos a priori psychologiques et vos angoisses et machins, mais vous êtes sous l'effet de la grâce, et donc vous dites, ah la sainteté, mais oui, la sanctification, je vais me sanctifier, je crois que je vais me sanctifier dans un Carmel. Vraiment fait par toi, Seigneur, pour vous sanctifier dans le mariage. Vous verrez que c'est instinctif, vous verrez que instinctivement, ce sera ça. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours demander l'avis et l'opinion. L'opinion de ceux qui vous connaissent bien, qui vous ont vu vivre selon une modalité chrétienne. Vous avez vécu ensemble. Ah, par exemple, c'est très bien que chacun connaisse l'opinion de tous ceux qui sont ici, s'ils en ont une, sur leur vocation. Quelle est la vocation, à votre avis, de... Quelle est la vocation de Gérard, par exemple, à votre avis? Qu'est-ce qui a une idée? Est-ce que vous croyez qu'il est fait pour le mariage? Non, mais je dis deuxième, un truc, un petit appoint, parce que l'oraison, c'est... L'oraison, c'est Jésus et nous dans l'oraison, mais un deuxième aspect, c'est l'Église. C'est l'Église. C'est ce qu'il y a au catéchisme. Pour déterminer la vocation, il faut trois choses. Catéchisme qu'on apprend en deuxième année, troisième année de catéchisme, donc à l'âge de 9 ans. Troisième année de catéchisme. Pour savoir quelle est ta vocation, il faut trois choses. Ben non, mais dans l'église, c'est nous l'église là. On a cheminé ensemble dans la prière, et donc chacun en voyant les autres, vous savez. Ça va mon petit. T'inquiète pas, ouais. Je vois très bien. Enfin, je vois très bien. Mon opinion, c'est ça.
Tu as des opinions?
Hein? Ben, bien sûr.
Alors, Gérard, à votre avis, deuxième principe très important pour la vocation, que j'ai dit à quelques-uns d'entre vous, et c'est très très important ce que je vais vous dire là, si vous voulez déterminer votre vocation, c'est que la vocation se détermine par la voie négative. Alors, ça, c'est très important. Donc à la fin de votre oraison, vous n'allez pas dire « Ah voilà, je veux me sanctifier. » Vous voyez, parce que si vous vous sanctifiez dans le mariage, vous dites « Tiens, non. » Alors vous dites « Ah bon, je vais me sanctifier dans le Carmel, à Boulogne. » Mais non, c'est pour ça que je rectifie, en disant « À Boulogne. » Non. Ah, je vais me sanctifier chez les petites grises. Ah oui. Mais c'est par la voie négative, vous voyez? Par la voie négative. La voie négative vous donne la sûreté. C'est pour ça que je dis à votre avis pour Gérard. Est-ce qu'il est fait pour le mariage? Est-ce qu'il a la vocation du mariage? Qui est-ce qui est d'accord pour qu'il ait la vocation du mariage? Il va se sanctifier dans le mariage. Vous voyez? Ça c'est immédiat.
Pardon?
Il est déjà décidé. C'est pour ça que je fais plus je le prends lui. C'est plus facile pour vous. Mais déjà, vous pouvez quand même éprouver en le voyant, même si vous ne saviez pas qu'il était engagé, qu'il avait déjà choisi, vous pourriez assez facilement, le voyant vu, la manière de prier, etc., qu'en effet, il est appelé à une consécration totale. Ça se voit tout de suite. Il y a cinq voies. Cinq voies, toujours cinq, la grâce, donc la vocation aussi. Quelles sont les cinq voies? C'est les cinq de l'évangile de Saint-Jean, les cinq premiers disciples, Saint-Jean, la contemplation, je suis appelé à une vie, à un état de vie, qui favorisera au maximum la vie contemplative. Alors, ça peut être le Carmel, ça peut être l'ermite, ça peut être bénédictine, enfin bref, qui va favoriser au maximum les conditions de vie qui vont favoriser au maximum l'épanouissement d'une vie contemplative. Saint-Jean. Jésus appelle aussi André, c'est l'apôtre, puisqu'il va chercher son frère. Il l'amène. L'apôtre, le témoignage, hein? L'apostolat. Donc, dans des circonstances de vie où je vais me déployer, avoir deux occasions de me déployer au maximum dans l'apostolat. JL, c'est sûrement quelque chose de ce genre. L'étude grise, c'est quelque chose de ce genre aussi. C'est les deux. Pardon ? Non, non, mais je donne les cinq notes. Les cinq notes. La sainteté, c'est une chose, hein ? Puis cinq notes, puis après, trois états de vie. Un, cinq, trois, la vocation, bien sûr, donc. Donc, l'apostolat. Vous avez Nathanaël, Barthélemy, si vous préférez. Donc, la vocation, donc, d'un apostolat contemplatif, c'est, si vous voulez, c'est assez petit gris aussi, ça. C'est à la fois la contemplation, il est sous le figuier, l'homme, fils de l'homme qui monte et qui descend, et l'apôtre. Saint Barthélemy, c'est le théologien, c'est vraiment l'autre. Nathanaël, le troisième. Il y en a qui font de l'apostolat sans être contemplatif, par exemple à JL, on fait ça. Ben oui, c'est l'apostolat pur.
Ah non, pas du tout. Justement,
à l'apostolat. À la formation. À la contemplation, pas à la prière, non, à JL, et on ne peut pas dire que ce soit une formation de la vie contemplative. Je suis désolé. C'est pas une formation à la vie contemplative. Mais c'est une formation, oui, à la prière. C'est une formation à savoir un peu ce qu'il y a dans la Bible, à lire la Bible, etc. Mais pas à la vie contemplative. C'est vraiment l'apostolat, c'est André. Parce que Nathanaël, c'est vraiment la contemplation, la soif, la recherche de la vérité. Trouver la vérité, se nourrir de la vérité, contempler la vérité. Elle contemple la contente de la vérité. S'accumule, et elle finit par déborder. Et donc, je ne suis apostolique que quand je communique quelque chose qui déborde de moi, que je suis en train d'expérimenter dans ma contemplation en ce moment. C'est Nathanaël. Je me mets dans un contexte de contemplation apostolique, de vie contemplative. Moi, je mettrais Gladys là. Oui, contemplative et apostolique, l'a dit. C'est une opinion seulement. Hein. Le quatrième aspect, c'est Philippe. Philippe qui est donc, vous voyez, toujours sous service, etc. Appelez-vous, ce jour-là, dans l'évangile aussi. C'est la vocation du service. C'est Gérard et Michel. La vocation du service, on va aider les pauvres, on va aider. C'est Mère Teresa. C'est. On va créer des mouroirs, on va. Vous voyez ? Alors là, évidemment, Annie, hein, c'est neuf, c'est plutôt dans cette note. Vous voyez, cinq modalités. Comment ça, c'est la quatrième déjà. Alors la cinquième qui est appelée, c'est Jean-Pierre. Pierre. Donc c'est Pierre, c'est le ministère. Donc le sacerdoce, la catéchèse, le ministre, le service de l'Église, Gloria. Il y a les différentes notes, le diaconat, ces cinq notes qui reprennent la vocation d'Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et Élie. Les cinq vocations de l'Ancien Testament qui correspondent, donc Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et Élie. Et ces dix vocations-là, l'Ancien et le Nouveau Testament, sont vécues en un seul acte par Marie qui récapitule toutes les vocations et qui a la vocation des dix à la fois.
évidemment, il y a un... Vous comprenez bien, il faut faire le rapprochement entre Moïse, le législateur, et Pierre, bien sûr. La charité, bien sûr. Jacob, le combat de l'ange. Et Saint-Jean, la contemplation.
Elle est contemplative, tout ça. Là, vous voyez, c'est tout à fait structuré, ça. De l'argent. Donc, vous avez ces cinq modalités. Et ces cinq modalités, une fois que vous aurez déterminé votre note, vous voyez, d'abord la sainteté, et vous faites oraison. Puis ensuite, les cinq modalités. Sur ces cinq modalités, vous sentez votre... Vous êtes plus attiré vers le Carmel. Je voudrais vivre le mariage tout en étant carmélite. Ou bien je vois que la sainteté pour moi est plus de vivre le mariage tout en étant une petite grise. Enfin, je sais pas, c'est pas pareil. Vivre le mariage dans le sacrement de mariage comme ma mourine par exemple, dans le service incessant. Une activité surabondante, volcanique. Moi, je pourrais prendre mes cinq sœurs. Si je prenais mes cinq sœurs, elles vivent toutes dans ces cinq modalités, chacune la sienne. C'est assez caractéristique et assez surprenant. Bon, toi, tu connais ma Maureen, ce service. Ma sœur Violaine, c'est la contemplation, c'est la contemplative, c'est vraiment la carmélite. C'est pour ça que quand elle vit de l'esprit d'intelligence, ça se communique par le corps, dans l'âme de son mari qui contemple la Trinité. C'est extraordinaire. Hein, vous voyez, je sens. C'est génial. On a une autre qui c'est la foi. Elle, c'est Abraham, mais si vous préférez, c'est André. Donc André, c'est la croix. Donc je persévère dans la foi, je continue crucifié à labourer dans le mariage. Et elle sanctifie son mari comme ça. C'est génial d'ailleurs. Ouais, je crois que tu la connais, oui. Très extraordinaire, hein. L'espèce de Sainte Monique. Sainte Monique, c'est ça. Sainte Monique. Hein. Bon. Françoise, c'est contemplative apostolique. Françoise, c'est contemplative Nathanaël. C'est vrai que le premier sermon que j'ai fait à Saint-Brelade, à la première messe, c'est tombé sur Nathanaël. Ça tombait très bien, c'est une petite... Alors Ephraim m'a dit à la sacristie, la première messe était très chouette, il était venu à 120, il est venu là pour ma première messe à Saint-Brelade. Alors la sacristie m'a dit, parce que Jésus dit, voilà un véritable Israélite, voilà un véritable homme d'Israël, pour cent. Alors il m'avait dit, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà un vrai Israélite. Je me rappellerai toujours. Tu vois, Nathanaël, contemplation apostolique. Barthélemy, hein, Nathanaël, c'est Barthélemy. C'est le même. Nathanaël. Ah bah, cherchez vous-même. Prenez Élie. Élie, c'est la charité, je crois. Hein. Élie, c'est la contemplation. Mais vous avez aussi Jacob, hein. Mais Jacob, c'est beaucoup plus la charité, alors. Oui, oui. Pas impossible que Jacob puisse être la charité de... Si vous voulez, Abraham, c'est la foi. Isaac, c'est l'espérance. Jacob, c'est la charité. Le législateur, Moïse. Et Élie, c'est la contemplation. Les flammes d'amour. Ah, hein? Jacob, c'est Oui, Jacob, si tu vois, c'est le type efficace, tu vois, très efficace, très... Vous voyez, c'est quelqu'un qui est très très donné dans le service, qui s'occupe des pauvres, qui fait des mouroirs, qui fait des hôpitaux, qui dit qu'il faut organiser, fonder un hôpital, et bien grâce à ça, à partir de là, il va y avoir les 12 fils de Jacob, c'est-à-dire l'apostolat, à partir de là, grâce à ces gens-là, un apostolat va être possible sur le lieu. Vous voyez, Jacob enfant 12, service... Mais c'est pas la même, les cinq symbriques, si vous voulez, mais grâce à l'Église. Donc, une fois que vous avez trouvé votre modalité, justement grâce à la prière, vous voyez que vous êtes vraiment fait pour la contemplation pure tout le temps, vivre d'Élie le prophète tout le temps, sur la montagne d'Élie, embrasé littéralement, comme source de l'incendie du monde, toute votre vie. Voilà ce que je crois que Jésus veut faire, sanctifier. C'est ça qui m'attire, c'est ça que... Le reste me paraît rien à côté. Ou bien là, au contraire, le sacerdoce, le ministre, est toujours au service de ça. Enfin, voilà, vous voyez, vous avez tout ça. Donc, quand je dis sacerdoce, le ministère, donc le service dans l'Église, le service ecclésial. Donc, être la bonne du curé. Pardon ? C'est la pauvreté de l'espérance. Alors, une fois que vous avez bien vu qu'il y avait ces cinq modalités de la vocation, vous avez trouvé que Jésus vous appelle à la sainteté. À quelle sainteté? La sainteté dans le service des pauvres, des malades, des abandonnés, des marginalisés, un service vraiment de compassion, où Jésus est vraiment dans l'autre, vous voyez, parce qu'il y a des gens qui... Vous avez deux manières, ou bien je considère par exemple dans la charité vis-à-vis du prochain que je suis Jésus et je permets à Jésus d'aller toucher le cœur de celui qui est malade. Ou bien alors, dans le service, je vais avoir une autre manière de faire, je m'approche de celui qui est pauvre, parce que dans sa pauvreté, je trouve le Christ et il m'enrichit. Bon, il y a des gens, c'est plutôt ce deuxième aspect, et d'autres, c'est le premier aspect. En fonction de ça, vous allez avoir donc une distinction qu'on va appeler la distinction de l'état de vie, les trois modalités de vie différentes, vous voyez, donc. Alors, l'état de vie, il y a deux sacrements qui sont pour l'état de vie, le sacrement du sacerdoce et de l'ordre, et le sacrement du mariage, et il y a un troisième état de vie, qui est la vie consacrée, la consécration, ou bien privée, ou bien publique, ou bien officielle, ou bien intime, dans les mains d'un prêtre comme ça, privé, ou bien vous consacrez à Dieu, ou vous consacrez à Dieu dans l'esprit de virginité, d'obéissance et de pauvreté, dans les mains d'un évêque par exemple. On pourrait faire comme font les jeunes polonais. Si vous voulez, vous pouvez faire ça. Je vous proposerai de faire ça. Moi, c'est toujours pensé que fallait vous proposer ça. Faire comme ces jeunes Polonais, qui sont, je crois, des centaines de milliers à faire ça. Ils font vœu de chasteté absolue pour un an. Ils se consacrent à Dieu pour un an. Vœu de chasteté. Célibat d'amour, et ils font le vœu dans les mains du prêtre cours, un an, de votre virginité, si vous voulez. Ils sont consacrés à Dieu dans leur corps pendant cette année-là. Et si jamais ils doivent se marier dans l'année, très bien, ils sont délivrés de leur vœu le jour du mariage. Et ils font ça, ils sont des centaines de milliers de Polonais à faire ça, les jeunes. C'est un espèce de grand mouvement de masse qui se fait comme ça. Et ils font les vœux de religion de cette manière pour un an, pour 6 mois. C'est très beau de faire ça. Ouais, jusqu'au jour du mariage. Ah, ça veut dire que c'est évidemment. Ouais. Non, mais l'engagement de l'état de vie, c'est un état de vie, c'est-à-dire que vous êtes engagé. L'état de vie implique un engagement mutuel, officiel, extérieur. Donc, ou bien c'est sacerdoce, les sacrements de l'ordre, ou bien c'est la vie de mariage, ou bien c'est la vie consacrée. Et la vie consacrée, je m'engage, c'est signé. Ils sont en dehors de leur vocation. Il faut qu'ils soient engagés dans l'Église. La vocation implique qu'on est appelé par le Christ dans l'Église et il appelle des dans l'Église. Donc, on s'engage. Celui qui ne s'engage pas est sorti de sa vocation. Il est rentré dans la vocation, une grimace de la vocation qu'on appelle la vocation de la vieille fille. C'est une vieille fille.
Ma mère, qui s'est donnée complètement aux autres.
Marc Robin, par exemple. Marthe Robin, elle ne s'est pas mariée, elle ne s'est pas fait religieuse, mais elle s'est quand même engagée, consacrée à Dieu, complètement privative. Mais elle s'est engagée, elle a fait le vœu à Jésus que jusqu'à la mort, elle s'est engagée pour être son épouse. Non, je dis qu'ils sont en dehors d'une vocation chrétienne. C'est les chrétiens, les baptisés, mais ils n'ont pas atteint la... Mais non, la vocation, non, je suis désolé, mais la vocation implique la sainteté. Donne-moi un saint que l'Église est... Ah ben oui, mais c'est ton opinion, c'est pas la mienne. C'est pas celle de l'Église non plus. Mais qui te dit que dans leur cœur, ils n'ont pas fait un... Ah.